Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, vous nous parlez cette semaine d'un livre qui vient de paraître aux éditions Les Arènes, Europa, notre histoire, sous-titré L'héritage européen depuis Homère. Pourquoi, selon vous, cet ouvrage mérite une semaine de chronique, Brice?
Eh bien, d'abord parce que c'est un ouvrage impressionnant par sa taille. 1392 pages. Je défie les journalistes qui écrivent en ce moment des recensions de l'avoir lu en entier. Ensuite, par le nombre et l'origine nationale de ses auteurs. 109 venus du monde entier. Mais si ce pavé nous intéresse, c'est aussi et surtout en tant que symptôme. Car des histoires de l'Europe, il en pleut avec régularité depuis de nombreuses décennies et même quelques siècles. J'en possède personnellement toute une bibliothèque. Or, chaque averse a coïncidé avec un état d'esprit des Européens. Chacune a enregistré un jugement porté sur une histoire dont elle a retenu certains aspects pour en faire sens. Chacune de ces vagues historiographiques a coïncidé aussi avec une situation politique de l'Europe. Il n'est pas anodin que cet ouvrage s'attaque à la question de la provincialisation de l'Europe dans le monde à une époque où, comme l'écrit Dominique Régnier dans Le Figaro de ce matin, nos petits États-nations ne sont plus capables de garantir leur indépendance sur le plan militaire, ni même d'imposer leur autorité fiscale aux GAFA.
Mais ce pessimisme n'a pas toujours été de mise, Brice.
Ah ben non, pour prendre un exemple au début du 19e siècle, le cours que professe François Guizot au Collège de France entre 1828 et 1830 et qui sera édité en 1840 sous le titre « Histoire de la civilisation en Europe », alors que son auteur est devenu de facto le chef du gouvernement de la France, est d'un puissant optimisme. Il témoigne de la prise de conscience, dès le début du XIXe siècle, de l'une des caractéristiques de l'esprit européen, la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. À l'époque, cette dualité apparaît au protestant Guizot comme, je le cite, « la source de la liberté de conscience ». Pour l'auteur, cette spécificité européenne est très ancienne et elle s'est bâtie en plusieurs fois. Il y a d'abord le fait, intervenu pour lui dès le 5e siècle, de la constitution d'une institution hiérarchique et spécialisée, l'Église catholique. Ces évêques, devenus, je cite, les premiers magistrats municipaux, protègent la civilisation urbaine menacée par les invasions barbares et imposent à leur roi une loi supérieure à toutes les lois humaines. Mais pour Guizot, c'est surtout la réforme, c'est un calviniste, hein, qui malgré elle a introduit en Europe l'esprit de libre examen. Les conséquences de la réforme, écrit-il, ont dépassé ses vues. Ce qu'elle a fait, elle ne l'a pas complètement connu. À l'origine, les protestants ne voulaient pas supprimer l'Église de Rome, mais la remplacer par une nouvelle autorité spirituelle. Mais la réforme n'en ayant pas été capable, elle aurait lancé, malgré elle, un processus d'émancipation individuelle. Or, poursuit Guizot, nouvelle ruse de l'histoire, si vous voulez, l'abolition du pouvoir spirituel, celui de la papauté, a contribué à émanciper politiquement les Européens. Car la religion échappant à une aristocratie ecclésiastique pour devenir l'affaire de tous, la pensée religieuse a entamé de son côté une révolution intellectuelle générale qui culmine avec nos philosophes des Lumières, via Bacon et Descartes. Il était inévitable, poursuit Guizot, qu'entre l'esprit de libre examen et la monarchie absolue, un conflit éclata. Que celui-ci soit survenu d'abord en Angleterre, explique pour Guizot toujours l'avance politique et intellectuelle prise par ce pays à son époque. Et voilà une histoire de l'Europe qui témoigne de l'esprit de son temps, comme Europa, notre histoire, témoigne presque 200 ans plus tard de la nôtre. Elle était animée par une profonde confiance dans les destinées de l'Europe, assise sur l'idée d'une supériorité et d'une avance intellectuelle de notre continent. Aujourd'hui, le fardeau de la culpabilité européenne écrase notre époque. Guizot croit à une destinée providentielle d'une Europe de l'émancipation. En français libéral, il est obsédé par le modèle anglais, ce chemin que son pays n'a pas su prendre et dont l'échec politique s'est soldé par la révolution de 1789. Au passage, et parce que les rapports entre l'Europe et l'islam semblent beaucoup préoccuper nos historiens contemporains, surtout ceux d'Europa, on relèvera les observations dignes d'intérêt faites à ce sujet par Guizot, je le cite. Le principal effet des croisades, écrit-il, fut un grand pas vers l'affranchissement de l'esprit. Il est arrivé aux croisés ce qui arrive aux voyageurs. Leur esprit s'est ouvert et élevé par cela seul qu'ils ont vu une multitude de choses différentes, qu'ils ont connu d'autres mœurs que les leurs. Ils se sont trouvés en relation avec deux civilisations non seulement différentes, mais plus avancées. La société grecque d'une part, la société musulmane de l'autre. Les croisés furent frappés de ce qu'il y avait de richesse et d'élégance de mœurs chez les musulmans. Un monde vaste et nouveau s'était ouvert devant l'esprit européen. Il est assez remarquable que Guizot prononce ce cours sur la civilisation en Europe alors qu'était lancée depuis quelques années déjà la question de l'unification politique de l'Europe. Et c'est là l'œuvre d'un autre Français, le comte de Saint-Simon. On a souvent dit combien l'Union européenne actuelle ressemblait au projet saint-simonien avec sa chambre des députés du Parlement européen. Il pensait que cette société politique européenne devrait avoir trois piliers, la France, son pays donc, l'Angleterre et l'Allemagne, dont on doit rappeler qu'elle n'existait pas encore à l'époque. Pas mal vu pour un utopiste.